Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Et votre Esprit Seigneur se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous avançons dans ce traité sur la Sainte Eucharistie, donc qui couvre dans la tertia pars des questions 73 à 83. Nous en sommes à la question 75, à l'article 3, sur le polycopié. Vous avez le texte de Saint Thomas à la page 163 sur le polycopié qui est sur le site internet d'Anne Marie. La substance du pain, se demande saintement, après la consécration de ce sacrement, est-elle anéantie par la consécration? Alors voyons un petit peu ce que dit saintement. Je vous rappelle qu'il parle ici de la transsubstantiation. Le mot explique exactement ce qui se passe. Transsubstantiation, changement de substance. Une substance première disparaît et remplacée par une autre substance indépendante de la première. Et c'est la même chose pour la deuxième consécration. Donc, première consécration en substance du blé, la farine de blé, de l'hostie de froment disparaît pour devenir la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la deuxième consécration, c'est la substance du vin qui disparaît pour devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai expliqué déjà avec l'enseignement de l'Église, que les accidents demeurent. Saint Thomas va en parler, en long, en large et en travers. Alors, qu'est-ce que c'est que les accidents? Les accidents, c'est ce qui se tient sur la substance, où la substance soutient les accidents. Les accidents, ce sont les choses extérieures, c'est la quantité, la qualité, la relation, le lieu, etc. Et on voit avec nos yeux corporel, on voit les accidents. Par exemple, les accidents du pain ou les accidents du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont ici les mêmes, puisque les accidents ne changent pas. Il y a un changement de substance, mais pas un changement accidentel des accidents. Les accidents sont toujours les mêmes, soit la couleur, le nombre d'hosties, le poids des hosties, le dessin peut-être qui est gravé sur chaque hostie, etc. Pour la deuxième consécration, la substance du vin disparaît, remplacé par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les accidents du vin demeurent, c'est-à-dire la couleur du vin, la quantité de vin, le degré d'alcool du vin, etc., tout ça demeure. Alors nous allons voir un petit peu tout ça avec saint Thomas d'Aquin, donc avec toute l'Église catholique. Dans ce sacrement, répond saint Thomas, la substance du pain et du vin n'est pas anéantie. La substance du pain et du vin, une fois la consécration accomplie, ne subsiste ni sous les espèces corporelles ni ailleurs. Il ne s'ensuit pas qu'elle soit anéantie, elle est convertie. Donc ce n'est pas le terme d'anéantir qu'il faut utiliser, mais le terme de conversion. Convertere, tourner vers, donc c'est-à-dire un changement total. Elle est convertie au corps du Christ. Le corps du Christ va prendre la place du pain. Alors, est-il possible pour le pain d'être converti au corps du Christ, demande saint Thomas d'Aquin. Cette conversion n'est pas
possible naturellement parlant. Cette conversion n'est pas semblable aux conversions naturelles, dit saint Thomas, mais elle est totalement surnaturelle, accomplie par la seule vertu de Dieu. Il a cité saint Ambroise, il est clair que la Vierge engendra hors des lois de la nature, et ce que nous consacrons, c'est le corps né de la Vierge. Pourquoi donc chercher si les lois de la nature ont été observées à l'égard de ce corps, puisque c'est en dehors de l'ordre naturel que le Seigneur Jésus a été enfanté par la Vierge. Donc, naturellement parlant, c'est impossible. Surnaturellement parlant, c'est possible. Là, c'est vraiment un miracle du bon Dieu. Donc, saint Thomas va expliquer. Toute la substance du pain est convertie en toute la substance du corps du Christ, et toute la substance du vin en toute la substance du sang du Christ. Cette conversion n'est pas formelle, mais substantielle. Elle ne figure pas parmi les diverses espèces de mouvements naturels, mais on peut l'appeler transsubstantiation, ce qui est son nom propre. C'est un mot inventé par le Concile de Trente, transsubstantiation, changement de substance. Transire en latin, c'est passer d'un lieu à un autre. Donc il y a vraiment un changement, une conversion, je retrouve le terme utilisé par saint Thomas, non pas un anéantissement, mais une conversion. Les accidents du pain et du vin subsistent-ils dans ce sacrement? C'est l'article 5 de la question 75. Alors, saint Augustin répond, sous l'apparence du pain et du vin que nous voyons, nous honorons des réalités invisibles, c'est-à-dire la chair et le sang. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu aussi changer les accidents? Ça aurait été bien plus simple, dans le sens que là, tout le monde aurait vu avec ses yeux. La raison est toute simple, c'est que il y a un dégoût naturel pour l'homme de manger de la chair humaine avec les accidents de la chair. On aurait été accusé d'anthropophagie. Donc le bon Dieu a voulu cacher en quelque sorte sa substance divine, la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu cacher cette substance sous les apparences d'accidents qui, eux, sont habituellement digéré par le corps humain. Donc, l'extérieur, si vous voulez, reste là, les accidents demeurent, tant pour les accidents du pain que les accidents du vin. Alors, il va expliquer ça. Ce qui apparaît au sens, dit-il, donc ce sont, je répète, avec saint Thomas, ce que nous voyons, ce sont les réalités invisibles. Sous l'apparence du pain et du vin que nous voyons, nous honorons des réalités invisibles, c'est-à-dire le chair et le sang. On voit les accidents, mais on ne voit pas la substance. Et saint Thomas va expliquer ce qui apparaît au sens une fois la consécration faite, c'est-à-dire tous les accidents du pain et du vin, tout cela subsiste. Et c'est parfaitement raisonnable que la divine providence ait agi ainsi. Pourquoi? Il va donner trois raisons que je viens de vous expliquer. Les hommes n'ont pas coutume de manger de la chair et de boire le sang de l'homme, et cela leur inspire de l'horreur. C'est pourquoi la chair et le sang du Christ nous sont offerts sous les espèces des substances dont nous usons le plus souvent, et qui sont le pain et le vin. On est habitué à toucher, à manger le pain et le vin, et donc notre Seigneur Jésus-Christ a voulu masquer, cacher en quelque sorte sa divinité, son corps physique sous les apparences extérieures d'accidents que nous sommes habitués à toucher et à consommer. Deuxièmement, c'est pour que ce sacrement ne soit pas exposé aux moqueries des fidèles. Ce qui arriverait si nous mangeons notre Seigneur sous son aspect propre. Encore une fois, les catholiques seraient alors accusés d'anthropophagie. Troisièmement, c'est pour que, consommant invisiblement le corps et le sang de notre Seigneur, nous augmentions le mérite de notre foi. Donc il n'y a que la foi qui nous indique que la substance de l'hostie a changé, que ce n'est plus du pain, mais le corps de notre Seigneur Jésus-Christ joint à son sang, à son âme et à sa divinité. L'intellect, donc, qui a la substance pour objet propre, ce que dit Aristote, est préservé de toute tromperie par la foi. Dit donc que sans la foi, on ne peut pas croire à la transsubstantiation. Article 6. Après la consécration, la forme substantielle du pain subsiste-t-elle dans ce sacrement? Voilà ce que répond saint Thomas. La forme substantielle du pain appartient à la substance du pain. Donc, comme la substance du pain se convertit au corps du Christ, la forme substantielle du pain ne subsiste pas, puisque la substance a été transformée, a été changée du pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Article 7, cette conversion, ce changement, se fait-elle instantanément ou progressivement? Saint Thomas va répondre, cette conversion est accomplie par la vertu infinie divine à qui il appartient d'opérer d'un seul coup. Donc, elle est, cette conversion eucharistique, changement de la substance, est instantanée pour trois raisons. D'abord, parce que le terme de cette conversion est la substance du corps du Christ qui ne comporte pas de degré. On n'est pas plus ou moins, chose ne devient pas plus ou moins petit à petit le corps du Christ. C'est le corps du Christ ou ça ne l'est pas. Deuxièmement, parce que cette conversion ne suppose pas de sujet ni par conséquent une préparation progressive. Troisièmement, parce qu'elle est accomplie par la toute-puissance infinie de Dieu. Donc, un miracle. A-t-on le droit de dire « à partir du pain vient le corps du Christ » ? Donc il cite saint Ambroise qui explique exactement « lorsque survient la consécration, les paroles de la consécration, à partir du pain devient le corps du Christ ». Donc la substance première disparaît et est remplacée par une autre substance. Dans notre sacrement, c'est toute la substance du pain qui aboutit à tout le corps du Christ. Dans ce sacrement, ce qui demeure identique, ce n'est pas la substance qui a été changée, mais les accidents de la substance. Donc, dans ce sacrement, toute la substance est changée en toute la une substance différente, et cette conversion s'appelle transsubstantiation. Donc, il faut être très précis dans les termes qu'on utilise lorsqu'on parle de la Sainte Eucharistie. Alors, question 76 de la tertia pars, saint Thomas va maintenant étudier le mode d'existence du Christ dans ce sacrement. Donc, il y a 8 articles. Article 1 est particulièrement important. Question 76, article 1, la tertia pars, la troisième partie, le Christ tout entier est-il contenu dans ce sacrement? Bon, ça c'est une objection qu'on entend souvent de la part des enfants, parce qu'on prépare les enfants à la première communion, qu'on leur dit qu'ils vont recevoir le corps de Jésus. Souvent, l'enfant nous dit, mais moi, je veux recevoir aussi son sang, son âme et sa divinité. Pourquoi je ne reçois que le corps? Il faut expliquer que les trois choses sont unies. Et voilà ce que va dire saint Thomas d'Aquin. Dans ce sacrement, il y a le Christ tout entier. Bon. C'est ce que dit saint Ambroise. Il faut donc absolument professer, selon la foi catholique, dit saint Thomas, que le Christ tout entier est dans ce sacrement. Alors, il va utiliser des termes très techniques. On doit savoir donc ce qui appartient au Christ. On doit savoir que ce qui appartient au Christ se trouve dans ce sacrement de deux façons. D'une façon comme en vertu du sacrement, d'une autre façon en vertu de la concomitance naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la force du sacrement, après les mots de la première consécration, par la force du sacrement, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur l'autel. Puisque la substance du pain disparaît et remplacé par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par concomitance, puisque notre Seigneur Jésus-Christ naît et a maintenant un corps glorieux au ciel, on ne peut plus séparer les choses. Donc, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont unis. Donc, par la concomitance naturelle, après les paroles de la première consécration, par concomitance, il y a en plus de ce qui est là par la force du sacrement, le corps du Christ, il y a aussi le sang, l'âme et la divinité. C'est la même chose après la deuxième consécration. Par force du sacrement, la substance du vin disparaît, est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais par concomitance, il y a aussi dans le calice, pas simplement le sang, mais aussi le corps, l'âme et la divinité. Voilà les termes de saint Thomas, je vais vous lire maintenant. En vertu du sacrement, il y a sous les espérances sacramentelles, sous les espèces, pardon, sacramentelles, le terme direct de la conversion subie par la substance préexistante du pain et du vin. En tant que cette conversion est signifiée par les paroles de la forme qui sont efficaces dans ce sacrement comme dans les autres. Lorsqu'on dit ceci est mon corps ou ceci est mon sang. En vertu de la concomitance naturelle, il y a dans ce sacrement ce qui, dans la réalité, est uni au terme de cette conversion. Ces deux choses sont unies réellement. Partout où l'une se trouve réellement, l'autre doit se trouver aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir au ciel maintenant une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est un corps glorieux. C'est simplement par une opération mentale qu'on peut discerner les choses qui sont unies dans la réalité. Je vous ai expliqué déjà que c'est parce que la messe est un sacrifice qu'il faut une séparation d'une façon ou d'une autre du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible, donc la séparation va être introduite de façon sacramentelle par la double consécration. Puisqu'il y a double consécration, il y a sacrifice, parce qu'il y a séparation entre le corps et le sang. À tel point que si un prêtre mourait, par exemple, après la première consécration, ou si un prêtre, malheureusement, oubliait la deuxième consécration, eh bien, la présence réelle serait sur l'autel, il y aurait vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y aurait pas une messe. Il n'y aurait pas une messe parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice, dans le sens qu'il n'y a pas eu de séparation sacramentelle entre le corps et le sang. Alors, saint Thomas explique les choses dans les réponses aux objections. Puisque la conversion du pain et du vin n'a pas pour terme la divinité ni l'âme du Christ, il s'ensuit que sa divinité ou son âme ne se trouve pas dans ce sacrement en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle. Ce n'est pas par la force du sacrement que le sang, l'âme et la divinité sont là après la première consécration, mais par concomitance. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus possible de séparer ces choses. Car la divinité n'a jamais abandonné le corps qu'elle a assumé dans l'incarnation. Partout donc où se trouve le corps du Christ, sa divinité se trouve forcément aussi. Par conséquent, dans ce sacrement, la divinité du Christ accompagne forcément son corps. Ainsi, par exemple, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps seul du Christ était dans le tombeau depuis le vendredi à 3h de l'après-midi jusqu'au dimanche de Pâques au matin. L'âme du Christ, nous dit la foi catholique, est descendue à ce moment-là aux enfers pour apparaître au juste de l'Ancien Testament qui attendait dans ce qu'on appelle les lames des patriarches, donc ce lieu où attendaient tous les justes de l'Ancien Testament qui ne pouvaient pas rentrer au ciel puisque les portes du ciel avaient été fermées par la prévarication d'Adam et Ève. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est descendu avec sa divinité sans son corps. Son corps est resté dans le tombeau à Jérusalem, il est descendu dans ce lieu qui a depuis disparu. Mais, c'est ça qu'il faut bien comprendre, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui était resté dans le tombeau était toujours uni à la divinité. De la même façon que l'âme du Christ qui est descendue visiter les justes dans l'Ancien Testament pendant 36 heures, depuis le vendredi saint jusqu'au dimanche matin de Pâques, donc l'âme du Christ est descendue dans ce lieu. Mais cette âme était unie à la divinité. Donc l'âme était unie dans la divinité dans un endroit physique spécial, l'âme des patriarches, et le corps, uni à la divinité, était aussi dans un autre endroit, à savoir le tombeau où était enterré notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saint Thomas cite le concile, le symbole d'Éphèse, « Nous devenons participants du corps et du sang du Christ. » Ce n'est pas comme recevant une chair ordinaire ou comme des hommes sanctifiés et unis au Verbe par une unité morale, mais comme recevant une chair vraiment vivifiante et devenue la propre chair du Verbe. Quant à l'âme, elle fut réellement séparée du corps. Pourquoi ? Parce que si l'âme et le corps du Christ n'étaient pas séparés, il n'y aurait pas eu de mort. La mort, c'est quoi ? C'est la séparation entre le corps et l'âme. Donc il y a véritablement séparation du corps et de l'âme. Mais le corps de son côté et l'âme de son côté sont toujours unis à la divinité. C'est l'enseignement de l'Église catholique. Par conséquent, si on avait célébré ce sacrement, la Sainte Messe, donc pendant les 3 jours où le Christ demeura dans la mort, l'âme n'aurait pas été présente, ni en vertu du sacrement, ni en vertu de la concomitance réelle. Mais parce que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, son âme est toujours réellement unie à son corps. Et par conséquent, dans ce sacrement, le corps du Christ se trouve en vertu du sacrement, et son âme en vertu de la concomitance réelle. Donc, vertu du sacrement ou force du sacrement, ce sont deux synonymes, c'est-à-dire la même chose. Donc après la première consécration, par la force du sacrement, en vertu du sacrement, le corps du Christ est là. Par concomitance réelle, sont joints à ce corps du Christ, l'âme, le sang et la divinité de notre Seigneur. Après la deuxième consécration, le sang du Christ se trouve dans le calice par la force du sacrement, en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle, dans le calice, dans la substance, dans le calice, il y a avec la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc après la deuxième consécration, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment là, par la force du sacrement, par la vertu du sacrement, mais pas concomitance réelle, et on joint le sang du Christ également, son corps, son âme et sa divinité. Il faut bien que les choses soient claires. Donc les dimensions du pain et du vin, c'est-à-dire les accidents, ne sont pas converties aux dimensions du corps du Christ, mais il y a en fait conversion de substance à substance. Ainsi, c'est la substance du corps du Christ ou de son sang qui est dans ce sacrement, en vertu du sacrement, mais non les dimensions du corps ou du sang du Christ. Il est donc évident que le corps du Christ est dans ce sacrement par mode de substance et non par mode de quantité. Toute la nature de l'homme, dans un homme petit aussi bien dans un homme grand, est la même. C'est une comparaison qu'il prend. Il dit que toute la nature de l'air, par exemple, se trouve dans une grande ou une petite quantité d'air. Toute la nature du pain se trouve dans une petite miette du pain ou dans un gros pain. De la même façon, toute la substance du corps et du sang du Christ est contenue dans ce sacrement après la consécration. Comme avant la consécration, il était contenu la substance du pain et du vin. Donc dans 20 hosties, il n'y a pas plus de Dieu que dans une hostie. C'est toujours la même substance divine. Alors, le Christ, c'est la question, article 2 de la question 76, le Christ est-il tout entier dans chacune des deux espèces? Donc, c'est la formule qu'on utilise. On dit que les espèces ont changé. Il apparaît donc que le Christ, tout entier, est sous chacune des deux espèces. D'accord? Sous les espèces du pain, Saint Thomas va expliquer, ce sont des textes absolument importants, capitaux, qu'il faut bien comprendre. Donc, sous chacune des deux espèces sacramentelles, il y a le corps du Christ tout entier, mais différemment dans les deux cas. Sous les espèces du pain, il y a le corps du Christ en vertu du sacrement, et son sang en vertu de la concomitance réelle, comme on vient de le voir, au sujet de son âme et de sa divinité. J'ai déjà expliqué. Sous les espèces du vin, il y a le sang du Christ en vertu du sacrement, par la force du sacrement, et son corps en vertu de la concomitance réelle, ainsi que son âme et sa divinité, du fait que maintenant le sang du Christ n'est pas séparé de son corps comme il l'avait été au moment de sa passion, de sa mort. Par conséquent, si on avait alors célébré l'Eucharistie, le corps du Christ aurait existé sans son sang, sous les espèces du pain et sous les espèces du vin, son sang sans son corps, comme il existait dans la réalité. C'est-à-dire que la présence réelle est là, après la transsubstantiation, mais sous les apparences du pain et du vin. Donc les espèces, les apparences extérieures demeurent. Les accidents du pain demeurent, les accidents du vin demeurent. Donc on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ cache sa substance divine, cache sa nature divine, cache son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences de choses qui peuvent être consommées facilement, le pain et le vin. Ce sont les apparences, mais ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Saint Thomas donc explique que bien que le Christ tout entier se trouve sous chacune des deux espèces, ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce que cela sert à représenter la passion du Christ dans laquelle son sang fut séparé de son corps. Mais pourquoi? Dans la forme de la consécration du sang, on mentionne l'effusion de celui-ci. Donc, il y a vraiment sacrifice, donc séparation entre le corps et le sang. Deuxièmement, cela convient à l'usage de ce sacrement pour qu'on présente séparément aux fidèles le corps du Christ en nourriture et son sang en boisson. Troisièmement, quant aux effets des sacrements, on a vu plus haut que le corps nous est donné pour la santé du corps, le sang pour la santé de l'âme. Donc le corps du Christ ne se trouve pas sous l'espèce du vin en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle. Donc, par la consécration du vin, le corps du Christ n'est pas là de lui-même, mais par concomitance. Donc la présence du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, substantielle, puisqu'il y a eu changement de substance, se fait sous les apparences du pain d'un vin, c'est pour ça qu'on utilise la formule, sous l'espèce du pain et du vin. Donc le corps du Christ ne se trouve pas sous l'espèce du vin en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle. De même, le sang du Christ ne se trouve pas sous l'espèce du pain en vertu du sacrement, mais en vertu de la concomitance réelle. Article 3. Le Christ est-il tout entier sous chaque partie des espèces du pain et du vin? Encore une question des enfants, quand on les prépare à la première communion, ils disent, mais monsieur l'abbé, moi, est-ce que je peux communier au calice aussi? Je reçois l'hostie pour le corps du Christ, mais je voudrais bien recevoir le sang du Christ. Est-ce que je peux communier ou pas au calice? Donc, il faut expliquer aux enfants, avec des mots qu'ils peuvent comprendre, que, en fait, dans cette hostie que je vais leur donner, cette hostie n'est plus du pain, c'est la substance du corps du Christ, mais qui est joint à ce corps du Christ, le sang de notre Seigneur. Pas simplement son corps, mais aussi son sang, et aussi son âme, et aussi sa divinité. Donc il reçoit tout, l'enfant reçoit, quand il communie, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit très bien dans tous ces textes très catéchétiques de saint Thomas d'Aquin, très théologiques, à quel point il est important de garder les termes traditionnels utilisés. Si l'Église utilise le terme de transsubstantiation, c'est pas pour rien. C'est justement pour bien éviter les erreurs protestantes, les hérésies protestantes sur ce sujet. Donc, article 3, le Christ est-il tout entier sous chaque partie des espèces du pain et du vin? Donc, notre Seigneur va répondre que le corps du Christ est dans ce sacrement par mode de substance. Donc, le Christ tout entier est sous chaque partie des espèces du pain, même quand l'hostie demeure entière, et non seulement lorsqu'elle est rompue. Donc, le corps du Christ ne se rattache pas à ce sacrement en raison des dimensions de la quantité, mais en raison de la substance. Bon, une comparaison toute simple fait comprendre la chose. Que je vous donne un petit bout de pain ou un gros bout de pain, c'est toujours du pain dans les deux cas. Si je vous demande, est-ce que cette petite miette de pain que je viens de vous donner est-elle du pain? La réponse est oui. Je vous donne un gros bout de pain, que je vous demande est-ce que ce gros bout de ce pâtière que je viens de vous donner est-elle du pain? La réponse est oui. Est-ce que le pain de la petite miette de pain que je viens de vous donner ou le pain de la grosse ou du gros pain que je viens de vous donner est ce pain est-il toujours du pain dans les deux cas? Oui. Donc le pain de la petite miette est autant pain que le pain de la grosse miette. C'est pareil pour le vin. Donne une goutte de vin, c'est du vin, la substance du vin. Si je vous donne une bouteille d'un litre de vin, 75 centilitres de vin, c'est toujours la substance du vin. Dans les deux cas, que ce soit dans une goutte de vin ou dans un grand verre de vin, il y a toujours du vin. Donc le corps du Christ ne se rattache pas à ce sacrement en raison des dimensions de la quantité, c'est-à-dire des accidents, mais en raison de la substance. Donc saint Thomas vient bien dans les détails. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, qu'au Concile de Trente, où cette doctrine de la Sainte Eucharistie a parfaitement été explicitée pour lutter contre le protestantisme, rappelez-vous que sur l'autel de l'église de Trente où étaient réunis les pères conciliaires, il n'y avait que deux livres. Il y avait la Sainte Bible, la Vulgate, et la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 76, article 4. Les dimensions du corps du Christ sont-elles tout entières dans ce sacrement? Alors, voilà ce que répond saint Thomas. Les dimensions d'un corps ne se séparent pas réellement de sa substance. Or, dans ce sacrement, il y a toute la substance du corps du Christ, Donc, toutes les dimensions du corps du Christ sont dans son sacrement. C'est-à-dire qu'on reçoit, sous les apparences du pain, on reçoit le Christ tout entier. Ce qui appartient au Christ se trouve dans le sacrement de deux façons, soit en vertu du sacrement, soit en vertu de la concomitance naturelle. En vertu du sacrement, les dimensions du Christ, du corps du Christ, ne sont pas dans ce sacrement. Mais, comme la substance du corps du Christ n'est pas réellement dépouillée de ses dimensions et des autres accidents, il s'ensuit qu'en vertu de la concomitance réelle, il y a dans ce sacrement toutes les dimensions du corps du Christ comme tous ses autres accidents. Donc on reçoit le Christ, la personne du Christ complète avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. De la même façon, si vous communiez une petite hostie ou si le prêtre communiait une grande hostie, c'est le même Dieu dans les deux cas. Imaginez quelqu'un, un prêtre qui communie plusieurs fois parce qu'il faut finir le ciboire, il doit purifier le ciboire, il prend par exemple 3 ou 4 hosties qui restent au fond du ciboire parce qu'il doit changer de chapelle et donc il faut vider le tabernacle. Eh bien, même s'il a communié plusieurs fois, il n'a pas reçu plus de Christ que la personne qui n'a communié qu'une fois. C'est la même chose, c'est le même Christ, puisque la substance est la même, toujours la même. Donc, saint Thomas réexplique, en vertu de ce sacrement, il y a sur l'autel la substance du corps du Christ, tandis que ses dimensions s'y trouvent par mode de concomitance et comme par accident. Donc, les dimensions du corps du Christ ne se trouvent pas dans ce sacrement selon leur mode propre, si bien que le tout serait dans le tout et chaque partie dans chaque partie, mais par mode de substance. Et la nature de la substance est d'être tout entière dans le tout, dans chacune de ses parties, et tout entière dans chaque partie. Donc le terme est bien choisi, transsubstantiation, changement de substance. Dès qu'on utilise un autre terme, on modifie la théologie de l'Église. C'est pour ça que le terme qui doit être utilisé est la transsubstantiation. Alors les modernes vont vous dire, l'Église de Vatican II, les prêtres vont vous dire, mais le terme transsubstantiation est beaucoup trop compliqué. Les gens ne sont pas capables de le comprendre aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Si les gens ont compris ce texte, si les catholiques ont compris ce terme de transsubstantiation pendant des siècles et des siècles, pourquoi ils seraient plus capables de comprendre les choses aujourd'hui? Paraît-il que les hommes modernes sont plus intelligents que les hommes d'avant. Ce qui est faux, puisque les hommes d'avant étaient bien plus intelligents qu'aujourd'hui. C'est clair et net. Cependant, dans les deux cas, les hommes étaient parfaitement capables de comprendre ce terme. Article 5, de la question 76, le corps du Christ est-il dans ce sacrement comme dans un lieu? Alors, réponse, le corps du Christ n'est pas dans ce sacrement comme dans un lieu. On a vu que le corps du Christ n'est pas dans ce sacrement selon le mode des dimensions, mais selon le mode de la substance. Donc les dimensions propres du Christ se rattachent à ce lieu par l'intermédiaire de la substance. Ce qui est contraire à la notion de corps localisé, donc d'aucune manière le corps du Christ n'est localement dans ce sacrement. C'est la substance qui est là. Bon. Les accidents du corps du Christ se trouvent dans ce sacrement par concomitance réelle. C'est pourquoi on trouve dans ce sacrement les accidents du corps du Christ qui lui sont intrinsèques. Bon, exister dans le lieu est un accident qui se rattache à une contenance extrinsèque. Par conséquent, on ne doit pas dire que le Christ est dans ce sacrement comme dans un lieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est présent par la substance. Article 6 de la question 76. Le corps du Christ est-il déplacé lorsqu'on déplace l'hostie ou le calice après la consécration? Et la réponse est toujours la même, le Christ n'est pas dans ce sacrement comme dans un lieu. Or, ce qui n'est pas dans un lieu ne se meut pas immédiatement et de soi-même dans le lieu. Donc, saint Thomas explique dans la réponse, le 7 contrat, il est impossible que le même être soit à la fois en mouvement et en repos, parce qu'alors les contraires seraient vrais en même temps dans le même sujet. Mais le corps du Christ est en repos dans le ciel où il réside. Il ne peut donc pas être déplacé dans ce sacrement. Il est clair donc que le Christ, à proprement parler, se trouve dans ce sacrement sans aucune mobilité, parce qu'il est là par mode de substance et pas par mode de lieu. Bon, ce sont des distinctions théologiques qui peuvent sembler un peu surannées, pourtant c'est le fondement de toute notre foi catholique. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans la Sainte Eucharistie, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie, à ce moment-là, vaine est notre foi. Alors, peut-on voir le corps du Christ tel qu'il est dans ce sacrement, au moins avec des yeux surélevés par la lumière de gloire? C'est l'article 7. Donc, ça te répond en disant, il apparaît qu'on ne voit pas le Christ tel qu'il est sous l'espèce de ce sacrement. Aucun œil corporel ne peut voir le Christ tel qu'il est dans ce sacrement. Ensuite, il va développer. Le corps du Christ se trouve dans ce sacrement par mode de substance, on l'a déjà dit. Or, la substance en tant que telle n'est pas visible pour l'œil du corps et ne donne prise à aucun organe des sens, ni à l'imagination, mais à l'intelligence seule dont l'objet est l'essence des choses. Donc, Aristote précise bien que la substance ne peut être visible que par l'intelligence. Donc l'intellect de l'homme pèlerin, l'homme d'ici-bas, ne peut percevoir le corps du Christ comme les autres réalités surnaturelles que par la foi. Mais l'intellect angélique lui-même, par sa capacité naturelle, est incapable de le contempler. Donc les démons ne peuvent pas, par leur intellect, voir le Christ dans ce sacrement, sinon par la foi. Une foi à laquelle leur volonté ne consent pas, mais ils y sont contraints par l'évidence des signes. Selon la parole de Saint Jacques, les démons croient et tremblent. Donc, si vous demandez à un démon s'il croit à la présence réelle, il vous dira que oui. Est-ce que les anges croient à la présence réelle? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils voient notre Seigneur Jésus-Christ dans la présence réelle sacramentelle dans le tabernacle? Non. Alors, ensuite, Saint Thomas va parler des cas extraordinaires, ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Donc, c'est l'article 8. Quant à de la chair où un enfant apparaît miraculeusement dans ce sacrement, y a-t-il là le vrai corps du Christ? Quand on parle de ces manifestations miraculeuses, la plus connue est sans doute le miracle de l'Anziano en Italie. C'est un miracle eucharistique, donc, parce que ici Saint Thomas va commencer à parler des miracles eucharistiques. Qu'est-ce qu'un miracle eucharistique? Un miracle eucharistique, ça veut dire que non seulement il y a eu changement de substance, ce qui a lieu pour toutes les messes, mais en plus, les accidents ont changé. C'est-à-dire les accidents visibles du pain se sont transformés en les accidents visibles de la chair et du sang du Christ. Donc l'exemple le plus beau dans l'histoire de l'Église, c'est certainement le miracle de l'Anziano, donc un miracle eucharistique qui est arrivé en la ville de l'Anziano, dans les Abruzzes italiennes, vers l'an 700, dans l'église de Saint Légoncien et Domitien. Donc, au cours d'une messe, donc on ne sait pas exactement l'année, autour de l'an 700, au moment de la consécration, le prêtre célébrant cette messe aurait été pris d'un doute sur la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Il a alors vu l'hostie se transformer en chair et le vin en sang, donc dans les accidents, pas simplement dans la substance, mais aussi dans les accidents. Après un moment de frayeur, il se résolut à montrer le miracle à ses fidèles, et depuis lors, ce morceau de chair en forme d'hostie et ce sang coagulé en 5 petits cailloux sont toujours vénérés à l'Anziano. Donc l'Église a reconnu officiellement ce miracle. Alors voyons maintenant le texte de Saint Thomas d'Aquin. Donc c'est l'article 8 de la question 76. Quand de la chair ou un enfant apparaît miraculeusement dans ce sacrement, y a-t-il là le vrai corps du Christ? Donc, c'est un miracle eucharistique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un changement de substance, mais en plus, une modification au niveau des accidents. Lorsque se produit une apparition de ce genre, on rend à ce qui apparaît ainsi les mêmes hommages que ce qu'à ce qui se montrait auparavant. Or, on n'agirait pas de la sorte si le Christ n'était pas vraiment présent, car c'est à lui que nous rendons l'hommage de latride, d'adoration. Donc, lorsque même se produit une telle apparition, c'est le Christ qui est dans le sacrement. Donc, il faut garder du bon sens pour toutes ces choses-là. Je donne souvent comme exemple, quand je parle des tentations sous apparence de bien, je parle parfois des fausses apparitions dans les exercices Saint-Ignace que je prêche, je donne l'exemple d'une fausse apparition à Derval, entre Nantes et Rennes, d'un prêtre qui disait la messe traditionnelle sur une propriété qui appartenait à un faux voyant qui s'appelait Pierre Poulain, qui est mort maintenant. Et beaucoup de gens qui réfléchissaient pas, des catholiques, qui assistaient à cette messe chez M. Pierre Poulain, messe célébrée, non pas par Pierre Poulain qui était un laïc, mais par un prêtre traditionnaliste qui célébrait la messe pour lui, beaucoup de gens se sont fait avoir parce qu'ils réfléchissaient pas, qu'ils n'utilisaient pas leurs connaissances théologiques et leur catéchisme. Beaucoup de ces gens qui assistaient à cette messe ont vu un miracle eucharistique, ce qu'ils appelaient un miracle eucharistique, parce que était apparu pendant la consécration, au moment de l'élévation de l'hostie consacrée par le prêtre, était apparu sur l'hostie consacrée l'image du voyant, de Pierre Poulain. Il est évident que ça suffit pour déterminer que cette apparition est une fausse apparition. Si était apparu sur l'hostie consacrée après la consécration, donc l'image par exemple du Christ, l'enfant Jésus, l'agneau divin, très bien, c'était peut-être de Dieu, mais s'il apparaissait sur l'hostie consacrée l'image du voyant, on est sûr que c'est pas de Dieu. J'explique à mes fidèles, je dis, mais si, un peu de bon sens, si demain matin, quand je célèbre ma messe pour vous, apparaît sur l'hostie consacrée par l'abbé Lafitte, lorsque je l'élève après la consécration, quand je l'élève pour l'adoration des fidèles, et qu'apparaît sur l'hostie consacrée l'image de l'abbé Lafitte, vous prenez votre valise à toute vitesse, vous remplissez votre valise, et vous partez en courant. Parce que ça, c'est pas de Dieu. Il faut du bon sens. Donc, quand il y a un véritable miracle eucharistique, c'est le Christ qui est vraiment dans le sacrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'ici, les dimensions antérieures subsistent, tandis que d'autres accidents tels que la figure, la couleur, sont miraculeusement modifiés pour faire apparaître de la chair, du sang ou même un enfant. Il n'y a pas là d'illusion, car cela se fait en figure d'une vérité, c'est-à-dire pour montrer par cette apparition miraculeuse que dans ce sacrement se trouvent vraiment le corps et le sang du Christ. Ainsi est-il clair que les dimensions demeurent, qui sont les fondements des autres accidents. C'est ainsi que le corps du Christ demeure vraiment dans ce sacrement. Dans la vie de Saint-Louis, il y a un miracle eucharistique très intéressant. Donc au temps où Saint-Louis était roi de France, il y a eu à Paris un miracle eucharistique dans une des églises de Paris. Bon. Et Joinville, le sénéchal de Saint-Louis, a demandé au roi plusieurs fois, mais venez voir, tout Paris se précipite dans cette église pour assister à ce miracle eucharistique. Et Saint-Louis a toujours refusé d'y aller, aux grandes dames de Joinville. Et il a expliqué à Joinville, je n'ai pas besoin de voir ce miracle eucharistique pour croire en la présence réelle. J'y crois sans ce miracle. Ça, c'était la façon de réagir d'un saint. Alors, question 77, les accidents qui subsistent dans ce sacrement. Donc il y a beaucoup de choses, encore une fois, c'est un traité très... Il y a énormément de choses dans le traité lui-même. C'est pour ça que je fais attention, surtout dans ce genre de conférence, de ne pas dépasser une heure pour ne pas saturer l'intelligence de mes auditeurs. Donc, les accidents qui subsistent dans ce sacrement. Donc... Question 77, article 1, les accidents subsistent dans ce sacrement sans avoir de sujet. Donc, puisque, dit Saint Thomas va citer d'abord Saint Grégoire dans sa réponse, les espèces sacramentelles sont les attributs de ces réalités qui existaient auparavant, c'est-à-dire du pain et du vin. Ainsi, puisque la substance du pain et du vin ne demeure pas, il semble que ces espèces existent sans sujet. Ces accidents n'ont pas pour sujet la substance du corps et du sang du Christ, car la substance d'un corps humain ne peut aucunement être affectée de ces accidents. On est donc contraint d'admettre que dans ce sacrement, les accidents subsistent sans sujet, ce qui peut être produit par la vertu divine. Donc les accidents du pain et du vin, c'est-à-dire la couleur, le degré d'alcool, la quantité de matière, subsistent sans la substance, puisque la substance du pain a disparu et puisque la substance du vin a disparu. Et ceci est produit par la vertu divine. C'est le miracle de la transsubstantiation. Dans ce sacrement, s'il est accordé aux accidents d'exister sans sujet, ce n'est pas par la vertu de leur essence, mais par la vertu divine qui les soutient. Après la consécration, les accidents qui subsistent ont l'existence, ils sont donc composés d'existence et d'essence. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la philosophie qui est derrière, parce que ce n'est pas le but du cours. Mais sachez que tout est résumé dans le mot transsubstantiation, c'est pour ça qu'il faut utiliser ce mot. Donc, dans ce sacrement, se pose ensuite la question de saint Thomas, la quantité de pain ou de vin est-elle le sujet des autres accidents? Donc, la quantité est le sujet des accidents qui subsistent dans ce sacrement. Donc, dit saint Thomas, tous les accidents qui subsistent dans ce sacrement ont en guise de sujet la quantité du pain et du vin laquelle subsiste. Donc, la substance a disparu, mais les accidents demeurent. C'est comme ça qu'on peut résumer. Il convient en effet à la dimension d'être une quantité ayant position. C'est pourquoi la quantité peut être le sujet des autres accidents. De même, donc, lorsque la substance est retirée, lorsque la substance du pain et du vin disparaît, la vertu divine conserve les autres accidents. De même, lorsque la matière est retirée, la vertu divine conserve les qualités qui accompagnent la matière, Alors, saint Thomas continue, donc avec des discussions philosophiques un petit peu complexes. Question 77 d'article 3. Les espèces qui demeurent dans ce sacrement peuvent-elles modifier un corps extérieur? Si ces espèces, dit saint Thomas, ne peuvent modifier les corps extérieurs, elles ne pourraient être perçues par les sens, car la perception consiste en ce que le sens est modifié par le sensible. Donc, les espèces eucharistiques, on peut les toucher, on va les consommer. Donc, lorsque je place sur votre langue, pour la communion, une hostie consacrée, vous allez sentir le contact par la langue, de la langue avec l'hostie consacrée. Les espèces sacramentelles, donc bien qu'elles soient des formes sans matière, gardent cependant le même être qu'elles avaient antérieurement dans la matière. Donc, vous allez ressentir les accidents de cette substance qui a elle-même disparu. Ainsi, par exemple, saint Thomas explique que les espèces sacramentelles peuvent se dessoudre. Les sens perçoivent, par exemple, que les hosties consacrées pourrissent et se dissolvent. C'est pour ça qu'on a à côté du tabernacle, chez tous les hôtels catholiques, un vase d'ablution, un petit vase avec un corporal qui est sur le vase, qu'on utilise à chaque fois qu'on donne la communion à des fidèles en dehors de la messe. Quand je dois prendre le Saint-Sacrement dans le tabernacle pour aller donner le Saint-Sacrement à la communion à un malade, eh bien, je vais toucher, évidemment, l'hostie consacrée dans le tabernacle, la mettre dans une custode, et mettre la custode sur moi pour porter le Saint-Sacrement au malade. Donc, comme j'ai des petites parcelles de la substance du corps du Christ sur les doigts, je vais purifier mes doigts dans ce petit vase où il y a un petit peu d'eau, et ensuite essuyer mes doigts soigneusement avec le corporal. Et s'il y a des petites parcelles, particules d'hostie consacrée sur mes doigts, elles passent dans l'eau et là, elles vont se dissoudre. C'est pour ça que les sens peuvent percevoir que les hosties consacrées pourrissent et se dissolvent. Alors, si la modification est telle que la substance du pain et du vin sont dissoutes, le corps et le sang du Christ ne subsisteront pas alors sous ce sacrement. De la même façon, si vous êtes dans votre propre corps, dans votre propre estomac, lorsque vous communiez, vous allez recevoir l'hostie sur la langue, et l'hostie consacrée va passer dans le système digestif de l'homme, du catholique qui vient de communier. Bon. Lorsque la substance du corps du Christ disparaît, la présence réelle disparaît. Donc, si une hostie consacrée est laissée dans un tabernacle pendant une longue période de temps, surtout dans un climat très humide, si la moisissure s'y met, au bout d'un certain temps, ce n'est plus la substance du corps du Christ qui est là, mais la substance de la moisissure qui va remplacer la substance du corps du Christ. À ce moment-là, il n'y a plus présence réelle. Pour ça qu'on fait très attention, surtout dans les pays de mission où il y a parfois des grosses chaleurs, de ne pas laisser trop longtemps les hosties consacrées dans le tabernacle. Alors, Saint Thomas se pose même la question, qui semble un peu triviale, question 77, article 5, les espèces sacramentelles peuvent-elles donner naissance à un autre être? Bon. Les espèces sacramentelles, dit-il, sacramentelles peuvent donner naissance à des êtres nouveaux, par exemple de la cendre si on les brûle, hein, des vers si elles pourrissent, de la poussière si on les broie. Donc, les accidents de la présence réelle peuvent être utilisés comme nourriture, par exemple. Ici, imaginez qu'on ait laissé trop longtemps une hostie consacrée dans un tabernacle, eh bien, la pourriture va s'y mettre et des vers, éventuellement, pourraient malheureusement rentrer dans ces hosties et les consommer. Donc, c'est la consécration qui accorde miraculeusement à la quantité du pain et du vin d'être le premier sujet des formes qui viendront ensuite, tel est le propre de la matière. Et c'est pourquoi il est accordé à cette quantité tout ce qui est attribuable à la matière. Donc, dit saint Thomas, la quantité joue le rôle de matière. La quantité du pain et du vin garde sa nature propre et reçoit miraculeusement la vertu et la propriété de la substance. Encore une fois, vous voyez, tout ça est régné, sauvegardé sous le terme de transsubstantiation. C'est pour ça que les protestants ne voulaient pas utiliser ce terme et que les modernistes en ont horreur. Donc, dans la même ligne de question, c'est l'article 6, est-ce que les espèces sacramentelles peuvent nourrir? Non. Et la réponse est oui, les espèces sacramentelles nourrissent. Imaginez quelqu'un qui soit dans une église pendant plusieurs jours, qui meurt de faim, et qui se nourrissent des hosties consacrées. Eh bien, les accidents de ces hosties consacrées, même si la substance est le corps du Christ, les accidents sont toujours là, et donc c'est vraiment une nourriture aussi pour le corps. Donc les espèces sacramentelles nourrissent. Alors saint Thomas continue ses considérations en se posant la question de savoir si ces espèces sacramentelles sont rompues dans le sacrement. Alors, la question, c'est que les enfants aussi posent souvent cette question quand on les prépare à la première communion. Ils disent, mais lorsque vous coupez en deux une hostie, est-ce que ça fait mal au bon Dieu? En général, les enfants posent la question comme ça. Est-ce que ça fait mal au bon Dieu? Non. Parce que philosophiquement parlant, quand je romps une hostie, ce sont les accidents qui sont rompus, pas la substance. Le problème, c'est d'expliquer ça à un enfant de 5 ans ou 6 ans avec des mots qu'il puisse comprendre. J'explique donc que la substance n'est pas rompue parce que quand je divise une hostie en deux, dans les deux cas, dans les deux parties qui viennent de la partie principale, les deux parties de l'hostie divisée en deux, chacune d'elles, c'est toujours le même Christ. Donc il n'y a pas de rupture du corps du Christ lui-même. Donc, pourquoi? Parce que la fraction, de même que les autres accidents, a pour sujet la quantité. Comme les espèces sacramentelles sont le signe du vrai corps du Christ, ainsi la fraction de ces espèces est le signe de la passion du Christ qui est accomplie dans le vrai corps du Christ. Donc, lorsque un prêtre sépare, coupe en deux une hostie, c'est le symbole aussi de la passion du Christ qui écrase le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ainsi, par exemple, on le voit avec d'autres détails dans lesquels saint Thomas va rentrer, les sens, par exemple, constatent avec évidence qu'on peut mélanger, par exemple, au vin et un autre liquide, tant après la consécration qu'avant celle-ci. Pourquoi? Parce que les accidents sont toujours là. Donc le corps et le sang du Christ subsistent dans ce sacrement aussi longtemps que les espèces demeurent dans leur identité individuelle, car ce qui est consacré, c'est ce pain et ce vin. Donc, vous voyez que les termes doivent être parfaitement définis et clarifiés. L'important, c'est de bien garder la théologie de l'Église sur ce sujet. Donc, pour résumer tout ce que vient de dire saint Thomas d'Aquin, je vais reprendre un texte plus simple qui donne exactement la même doctrine. Je voudrais vous lire le paragraphe, le chapitre du catéchisme de saint Pie X, donc écrit par le pape saint Pie X, sur la Sainte Eucharistie. Donc, c'est une simplification du catéchisme du Concile de Trente. Voilà ce que dit saint Pie X. L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son sang précieux, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin pour être notre nourriture spirituelle. Dans l'Eucharistie, il y a donc vraiment le même Jésus-Christ qui est dans le ciel et qui est né de la très sainte Vierge Marie sur le ciel, sur la terre. Je crois donc dans le sacrement de l'Eucharistie, je crois que dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ est vraiment présent parce que lui-même l'a dit, que la Sainte Église me l'enseigne, que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut ni se tromper ni nous tromper. Bon. La matière du sacrement, l'Eucharistie, est celle qui fut employée par Jésus-Christ, c'est-à-dire le pain de froment et le vin de la vigne. La forme du sacrement de l'Eucharistie consiste dans les paroles employées par Jésus-Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». L'hostie avant la consécration, c'est donc du pain. Après la consécration, l'hostie est le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain, c'est-à-dire sous les apparences du pain. Dans les calices avant la consécration, il y a du vin avec quelques gouttes d'eau. Après la consécration, dans les calices, il y a le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du vin. Le changement du pain au corps et du vin au sang du Jésus-Christ se fait au moment même où le prêtre, pendant la Sainte Messe, prononce les paroles de la consécration. Cette consécration est donc le renouvellement par le ministère du prêtre du miracle opéré par Jésus-Christ, changeant à la dernière scène le pain et le vin en son corps et en son sang adorable par ces mots « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce changement miraculeux qui s'opère chaque jour sur nos autels est appelé « transsubstantiation ». Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui a donné une telle puissance aux paroles de la consécration. Après la consécration, il reste seulement les espèces du pain et du vin. On appelle espèces des accidents, donc la quantité, les qualités sensibles du pain et du vin, comme la forme, la couleur, la saveur. Donc les espèces du pain et du vin restent merveilleusement sans leur substance par la vertu du Dieu Tout-Puissant. Autant sous les espèces du pain que sous les espèces du vin, Jésus-Christ est vivant et tout entier dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et Jésus-Christ est donc tout entier aussi bien dans l'hostie que dans le calice, parce que dans la Sainte Eucharistie, il est vivant et immortel comme dans le ciel. Par conséquent, là où est son corps, il y a aussi son sang, son âme et sa divinité. Et là où est son sang, il y a aussi son corps, son âme et sa divinité, car en Jésus-Christ, tout cela est inséparable. Quand Jésus-Christ est dans l'hostie, il ne cesse pas d'être au ciel, mais il se trouve en même temps au ciel et dans le très saint sacrement. Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées. Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées par la toute-puissance de Dieu à qui rien n'est impossible. Ainsi, quand on divise l'hostie, on ne divise pas le corps de Jésus-Christ, on divise seulement les espèces du pain. Le corps de Jésus-Christ reste tout entier dans toutes les parties en lesquelles l'hostie a été divisée. Dans une grande hostie, comme dans la parcelle d'une hostie, c'est toujours le même Jésus-Christ. On conserve donc dans les églises la très sainte Eucharistie pour qu'elle soit adorée par les fidèles et portée aux malades quand ils en ont besoin. Donc l'Eucharistie doit être adorée de tout le monde parce qu'elle contient vraiment, réellement et substantiellement notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que dans ce texte de saint Pie X, qui est absolument sans faille, c'est exactement la doctrine de saint Thomas d'Aquin. La doctrine de saint Thomas d'Aquin est la doctrine de l'Église catholique. Donc, nous en arrivons à la question 78 de la tertia pars, la forme de ce sacrement, les paroles. Donc, nous verrons ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.